Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et à la une, la nouvelle version de l'homme sandwich 2.0. Des jeunes influenceurs soupçonnés de faire de la pub déguisée pour McDo sur les réseaux sociaux. L'UFC Que Choisir porte plainte contre la chaîne de restauration rapide. Elle dénonce des partenariats cachés. Explication dès le début de ce journal. J-2 avant la fin des tests gratuits pour les non-vaccinés. Comment continuer à surveiller le Covid dans ces conditions? Les autorités comptent beaucoup, vous l'entendrez, sur les eaux usées. Au sommaire aussi, le Sénat qui tente d'assouplir le non-cumul des mandats et une marionnette géante de passage en France pour sensibiliser à la cause des enfants réfugiés.
Et dans 20 minutes, à 7h50, Léa Salamé reçoit aujourd'hui le député Les Républicains de l'Oise, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, Éric Woerth.
France Inter.
Des partenariats, Alexis, qui ne disent pas leur nom sur les réseaux sociaux.
Le groupe McDonald's fait-il discrètement appel à de très jeunes influenceurs pour assurer sa pub sans le dire? C'est la conviction du FC Que Choisir. L'association de consommateurs va porter plainte aujourd'hui pour pratiques commerciales trompeuses. Elle soupçonne des partenariats cachés qui ciblent donc la jeunesse, des vidéos YouTube par exemple, dans lesquelles des adolescents s'affichent avec des produits McDo. Faustine Calmel.
Ils sont jeunes, parfois mineurs, et dans leurs vidéos se réjouissent des colis surprises reçus de la part de McDo.
Ah, ça t'intrigue ce colis, hein? Tu veux voir ce qu'il y a dedans?
Ouais, je vais ouvrir.
Swan, une dizaine d'années, fait face à la caméra, sa mère en voix off.
Alors c'est le Happy Meal News. Alors, regarde, il y a plein d'animaux différents.
Il y a toute la collection!
C'est ce type de vidéo, celle-ci vue 2 millions de fois, qui met la puce à l'oreille à Gwenaël, le jeune juriste à l'UFC Que Choisir.
Vous trouvez avec un déballage des petits cadeaux qui sont fournis avec, et puis vous comprenez assez rapidement, parce qu'on l'entend, hein, soit en voix off, soit en surépression à l'écran, que ben, ça correspond comme par hasard à la promotion des petits cadeaux qui sont donnés dans le Happy Meal à ce moment-là. Personnellement, quand je déballe un cadeau, je ne donne pas la date de disponibilité. Donc, tout nous laisse croire qu'il peut y avoir un partenariat derrière ce genre de situation. Et on ne dit pas le nom.
Autre élément qui a attiré l'attention de l'association, le scénario souvent identique.
Regarde, les cadeaux de Happy Meal.
Oh,
Anson, vas-y, on va regarder les autres. Donc là, c'est des cartes Pokémon apparemment.
Oh là là, trop cool quoi. Donc, McDonald's est heureux de vous offrir la collection exclusive de 5 verres Coca-Cola.
Le message, s'il n'affiche pas sa nature commerciale et déloyale, défend la juriste. Chez McDonald's, on assure ne jamais engager de partenariat avec des influenceurs de moins de 17 ans ou qui ont une audience composée en grande partie d'enfants mineurs.
Et si elles sont avérées, ces publicités déguisées peuvent coûter cher. En justice, au printemps dernier, Nabila, la vedette de la télé-réalité, a écopé de 20 000 euros d'amende pour avoir fait la promotion de services boursiers sur Snapchat sans préciser à l'époque qu'elle était rémunérée. Les associations de consommateurs très préoccupées aussi en ce moment par la hausse des prix de l'énergie. Que peut faire l'Europe? Bruxelles présente aujourd'hui sa boîte à outils, un bouquet de mesures temporaires à la disposition des États membres pour alléger la facture. Rien de très révolutionnaire à en attendre. La Commission européenne devrait inciter les États à baisser les taxes sur l'énergie, la TVA et à redistribuer les bénéfices des hausses de prix aux plus démunis.
Il est 7h34, le gouvernement dit faire le choix de la prudence, Alexis, en cas de rebond épidémique.
Et il veut se laisser la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été 2022, d'où le texte présenté ce matin en Conseil des ministres pour prolonger le dispositif au cas où, au-delà du 15 novembre. Difficile de prévoir l'avenir de cette épidémie de Covid, et ça ne va pas s'arranger avec la fin des tests gratuits pour les non-vaccinés sans ordonnance à partir de vendredi. Les autorités s'attendent à une chute du taux de dépistage. Alors comment continuer à traquer le virus? Un outil va devenir encore plus indispensable, le réseau Aubépine qui surveille l'évolution du Covid à travers les eaux usées. Reportage Alice Cachaner dans l'un de ses laboratoires en région parisienne.
Sur la paillasse du laboratoire, des flacons d'un litre remplis d'eau brunâtre.
C'est les eaux usées de la ville de Paris, des différents collecteurs de la ville de Paris.
Des échantillons récoltés dans les stations d'épuration, là où se déverse notamment l'eau de nos toilettes. Un dispositif mis en place au début de la crise sanitaire et qui a fait ses preuves, souligne le responsable recherche et développement du laboratoire Eau de Paris, Laurent Moulin.
Ce que l'on peut voir sur ce graphique qui met en relation de la concentration en génome dans les eaux usées et l'incidence dans un certain nombre de bassins versants, c'est que, on peut voir qu'on a parfois quelques jours avance. Hein. Vous voyez, sur Marseille, on voit que la première vague, on est en avance. Et sur la seconde, on a toujours ce petit temps d'avance.
Un indicateur efficace et surtout indépendant du nombre de tests nasopharyngés.
S'il y a une cinquième vague, bien sûr, s'il y a une remontée, les eaux usées s'allumeront. Et on pourra donner l'information aux autorités sanitaires, si tant est qu'ils ne l'aient pas vu avec le simple suivi des tests individuels.
Pour autant, le suivi de l'épidémie ne peut pas reposer que sur l'analyse des eaux usées. Sur 22 000 stations d'épuration en France, un peu moins de 200 font partie du réseau Aubépine. Par ailleurs, il s'agit d'un indicateur collectif et pas individuel, insiste Laurent Moulin.
Ça donne une idée de la dynamique de l'épidémie. Ça ne permet pas de bien traiter les gens ou de détecter s'ils sont malades ou pas pour qu'ils prennent des précautions.
Consciente de la chute probable du taux de dépistage, Santé publique France affirme que les analyses sur les eaux usées seront suivies avec d'autant plus d'intérêt dans les semaines à venir.
Le reportage d'Alice Cachaner pour Inter. Le lycéen filmé en train de bousculer violemment son enseignante à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne sera jugé dès aujourd'hui en comparution immédiate. Cette vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Les deux autres élèves soupçonnés d'avoir filmé doivent être présentés aujourd'hui à un juge des enfants car ils sont encore mineurs. Ils sont tous différents, tous plus forts les uns que les autres. Les témoignages des victimes du Bataclan se poursuivent au procès du 13 novembre 2015. Des récits de l'horreur ce soir-là, mais aussi de l'après. L'après qui ressemble parfois plus à de la survie qu'un retour à une vie normale. C'est ce qu'on a entendu hier devant la cour d'assises spéciale Sophie Parmentier.
Je m'appelle Sandrine, j'ai 42 ans depuis 2015, souffle une survivante aux cheveux blonds, manches courtes, bras tatoués, bottes aux pieds. Je suis habillée de la même manière que le 13 novembre, précise Sandrine devant la cour. Je porte ces vêtements-là car ça fait 6 ans que je suis pas sortie de là-bas. Je suis sortie vivante parmi les morts et je suis devenue morte parmi les vivants. Sophie, petite brune aux yeux sombres, est à son tour à la barre. Sophie raconte les deux balles de Kalachnikov qu'elle a reçues comme un coup de marteau et à côté d'elle, ce garçon en train de mourir. Après, j'ai appris son nom mais ce soir-là, nous l'avons utilisé comme un sac pour nous protéger. Mon innocence est morte au Bataclan, sanglote Sophie. Et puis Shaili vient témoigner. Shaili porte de longs cheveux rouges jusqu'à la taille. Elle est essoufflée. En 2015, j'avais 18 ans. Je venais d'avoir mon bac avec mention. J'avais un petit copain formidable. Le soir du 13 novembre, Shaili a vu la mort en face, dans la fosse, coincée contre la barrière, écrasée dans une mare de sang. Le 13 novembre, je suis morte. Aujourd'hui, je ne suis plus en vie. Je respire, c'est tout, murmure Shaili, bouleversante.
Sophie Parmentier au procès du 13 novembre. Un premier hommage sera rendu à Hubert Germain dès vendredi. Hommage militaire aux Invalides à Paris, présidé par Emmanuel Macron. Avant la cérémonie d'inhumation prévue elle le 11 novembre au Mont Valérien. Le dernier compagnon de la Libération est mort à 101 ans. De Londres en 40 au débarquement de Provence en 44. Vous retrouvez tout son parcours sur franceinter.fr. Au Parlement, c'est le retour d'un vieux débat, le cumul des mandats. Depuis une loi de 2014, députés et sénateurs n'ont pas le droit d'exercer en plus une fonction exécutive dans une collectivité locale, commune, département ou région. Bien trop strict pour les sénateurs du centre et de la droite, contre l'avis du gouvernement, ils viennent d'adopter une proposition de loi destinée à assouplir un peu les règles, Antoine Gignot.
Pour faire passer son texte, Hervé Marseille replonge les députés 7 ans en arrière. Il parle d'une loi adoptée en 2014 pour plaire à l'opinion. Le chef de file des centristes rappelle aux sénateurs leur réticence, leur doute de l'époque, appuyé chez les Républicains par Rémy Pointereau.
La démagogie l'a emporté sur la réflexion et nous sommes passés d'un extrême à l'autre. Je pense qu'un élu doit marcher sur ses deux jambes, le local et le national, pour mieux comprendre les difficultés du terrain.
C'est sur cette déconnexion entre les parlementaires et la vie locale que la droite s'appuie. La réforme permettrait aux élus de briguer des mandats de maire dans les villes de moins de 10 000 habitants pour éviter d'être hors sol, un argument balayé par la gauche et Jean-Claude Tissot, sénateur socialiste de la Loire.
Rien ne m'interdit de siéger au syndicat d'énergie, sur les commissions départementales, municipales, régionales. Une seule chose nous est interdite dans le cadre de la loi, c'est le non-cumul de l'exécutif. Donc en fait, c'est le pouvoir que vous ne voulez pas partager.
Au PS, toujours, Éric Kerrouche parle d'un retour en arrière sur des avancées démocratiques. Et au gouvernement, Nadia Hay, la ministre chargée de la ville, donne un avis défavorable à la proposition de loi qui doit maintenant être examinée à l'Assemblée nationale.
C'est rarissime pour Netflix et c'est une première pour un acteur français. Omar Sy vient de signer un contrat de plusieurs années avec la plateforme américaine pour à la fois jouer et produire des films originaux. Le montant de ce contrat reste secret, on va y revenir en détail dans le journal de 8h. Netflix qui par ailleurs vient d'enregistrer son plus gros démarrage jamais réalisé avec la série sud-coréenne Squid Game. En moins d'un mois, 111 millions de foyers abonnés l'ont déjà vu.
Il est 7h40. Après la Turquie, la Grèce, l'Allemagne, Amal est arrivé en Île-de-France.
Amal, c'est le nom d'une marionnette géante qui parcourt un long voyage depuis juillet à travers l'Europe. La représentation artistique d'une jeune réfugiée pour sensibiliser le public aux conditions de vie des enfants sur les routes de l'exil. Elle fait donc étape ces jours-ci en région parisienne, accueillie triomphalement hier par 300 enfants d'Aubervilliers. Vous y étiez, Alexis Demeyer.
Amal est venu à Aubervilliers pour se faire de nouveaux copains. Parmi eux, Erkan, Bakari et Mohamed.
Bienvenue Amal, on t'attend pour le trésor.
Direction en effet le fort d'Aubervilliers pour une grande chasse au trésor. Et Amal a beau être une petite fille, c'est une géante qui mesure près de 4 mètres. Elle a besoin de 3 marionnettistes pour se déplacer.
En fait, elle est à la recherche de sa mère. Elle est trop impressionnante, franchement, je pensais pas.
On dirait ma mère en plus grand.
Ouda, venue avec son fils, se prête, elle aussi, au jeu.
J'ai lu un petit peu son histoire, et j'ai expliqué aux petits aussi. C'est une petite fille syrienne qui est à la recherche de sa maman. Et quand on lui a dit que vous allez la trouver à Aubervilliers, elle est venue pour la chercher. Et voilà, on l'a suivie pour lui montrer le chemin aussi.
La mère d'Amal pourrait en fait avoir déjà rejoint l'Angleterre, mais elle avait pris soin de cacher une poupée pour sa fille à Aubervilliers. Claire Béjanin est la productrice de cet événement artistique.
Ce qu'on essaye de faire, c'est par l'art, par cet enfant qui est humaine et incroyable, et ce qu'elle incarne, c'est créer vraiment un message de solidarité avec les artistes, les institutions culturelles, tous. Il y a une grande chaîne d'amis d'Amal qui se crée.
Cette grande marche s'achèvera le mois prochain à Manchester. En arabe, Amal signifie espoir.
Et après la Seine-Saint-Denis, Amal est à Paris cette semaine, notamment demain sur la scène de la Comédie-Française.
Merci Alexis Morel. L'édito politique, Thomas Legrand, à suivre.